RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
La rétrospective de l'actualité de la semaine, et cette semaine l'État a donné 500 millions d'euros aux agriculteurs pour calmer leur colère et leur désespoir. Les coûts d'achat de leur production lait et viande par les industriels de l'agroalimentaire sont trop bas, ne leur permettent pas de vivre, car ils sont mis en concurrence avec la production de leurs voisins européens qui sont beaucoup moins chers, car les charges sont moins élevées. Alors enfin, le gouvernement a pris la mesure que les agriculteurs attendaient, à savoir une mesure de fond et pas une mesure d'urgence, avec la baisse des cotisations sociales de tous les agriculteurs pour les rendre enfin compétitifs par rapport à leurs compétiteurs européens. Cette baisse de cotisations sociales, ça coûtera 500 millions d'euros. Est-ce que ce sera suffisant? Affaire à suivre. Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont véritablement la solution entre leurs mains, c'est le consommateur français. En n'achetant pas français, il achète du chômage pour les agriculteurs. En n'achetant pas français, il achète des suicides d'agriculteurs. Autre actualité cette semaine, l'état d'urgence qui a été prolongé pour la seconde fois, quasiment dans l'indifférence générale. Prolongé pour 3 mois supplémentaires jusqu'au 26 mai. Alors tout est justifié, c'est au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé qu'on sortira de l'état d'urgence quand entrera en vigueur fin mai, justement, la nouvelle loi qui reprend et passe dans le droit ordinaire certaines des mesures extraordinaires de l'état d'urgence. Vendredi, le Conseil constitutionnel a validé 2 dispositions coercitives de l'état d'urgence, à savoir que le contrôle préalable d'un juge n'est pas indispensable pour les perquisitions policières ou les interdictions de réunion. Les sages avaient déjà validé les assignations à résidence. Nouvelle fracture en vue pour la gauche, non pas cette année autour de la loi Macron, mais de la loi El Khomri, la réforme du code du travail qui prévoit d'instaurer un salaire et un temps de travail modulable, notamment plus d'heures de travail, des conditions licenciement économique élargies. L'objectif, c'est de lever la peur de l'embauche de la part des patrons, mais la gauche du PS voit déjà rouge. On parle déjà de recourir au 49-3 pour forcer la main des députés socialistes qui ne voudraient pas voter ce texte. Les syndicats, eux, promettent déjà de descendre dans la rue. La CGT, même la CFDT, qui est ordinairement mesurée, ne sont pas d'accord avec ce texte. L'information la plus partagée, la plus commentée de la semaine, ça a été cette initiative d'un restaurateur en banlieue parisienne. Il a décidé d'interdire d'accès à son établissement les banquiers, parce que cet entrepreneur âgé de 30 ans, un restaurant gastronomique qui fonctionne bien, il a déjà tout remboursé. Il n'a pas le problème de trésorerie. Il voulait emprunter seulement 70 000 euros pour ouvrir un nouveau restaurant. Aucune banque ne lui a répondu. Enfin si, une seule lui a répondu pour lui dire non. Ulcéré, révolté, révulsé, il a décidé d'inscrire sur la pancarte de son restaurant « Chien accepté, banquier interdit ». Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Passez une bonne fin de week-end.
La météo de votre région sur RVE.
Le sport dans quelques instants, et à 10h, eh bien, je peux vous dire que le temps n'a pas beaucoup changé par rapport à ce matin. C'est un ciel toujours nuageux, on aura quelques éclaircies en fin d'après-midi et normalement pas de risque d'averse. Les températures sont douces, environ 9 à 11 degrés aujourd'hui.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver hein, ce matin au parc, donc au parking Leclerc, hein, à l'occasion des rendez-vous de la Reine. On avait parlé des métiers du cirque la semaine dernière à travers donc un art sportif. On va complètement changer de domaine ce matin, on va parler sport automobile avec quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, hein, on a fait une bonne dizaine et quinzaine d'émissions ensemble. C'est notre ami de Pont-Évrard, Pierre Buret. Pierre, bonjour.
Bonjour Philippe, et puis bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre, vous avez en exclusivité une info à nous donner, on vous en remercie, on en reparlera dans quelques minutes. Et puis, vous êtes accompagné de Stéphane Kahn, que je salue, l'homme de Vieille Église, hein, qu'on a entendu assez récemment sur nos antennes. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Stéphane, vous êtes venu nous parler hein, de votre participation au dernier rallye de Monte Carlo historique, hein, Poséidon.
Tout à fait. Rallye Monte Carlo historique, qui est le pendant du rallye Monte Carlo WRC, mais réservé aux voitures qui ont participé au rallye entre 1955 et 1980.
Voilà, et puis je salue naturellement Géraldine, qui nous accompagne maintenant dorénavant pratiquement chaque dimanche. Elle est passée des agrès du cirque au volant donc et à l'habitacle des voitures de sport. Salut Géraldine.
Salut, bonjour à tous les auditeurs. Ben oui, quel festival pour moi.
Hein. Voilà, c'est ça. Et donc Tribu Sport, hein, émission de tous les sports, on l'a déjà dit et répété. Je voulais simplement vous dire qu'on reviendra sur le semi-marathon de Bullion dimanche prochain, et puis que on ira, après cette émission, faire des petits reportages hein, sur le trail des villes royales qui a commencé ce matin depuis le château de Versailles pour le château de Rambouillet. On vous en fera un large résumé aussi dans l'émission de la semaine prochaine, puisque on recevra également la section de Rambouillet olympique, où on parlera notamment du prochain semi de Rambouillet. Ce sera le 13 mars, ça sera la 30e édition, ça sera naturellement l'événement sportif de l'année sur Rambouillet. Alors auparavant, Pierre, merci, vous êtes venu en exclusivité, je l'ai dit une nouvelle fois pour Hervé, bah pour nous annoncer une bonne nouvelle, un scoop en quelque sorte.
Un scoop, absolument, c'est-à-dire l'arrêt de ma carrière en sport automobile.
30 ans de carrière qui s'arrête, c'est une décision qui est mûrement donc réfléchie, Pierre.
Oui, c'est une décision, je dirais c'est un peu comme la carrière de quelqu'un qui travaille. Ça fait un beau chiffre, c'est-à-dire 30 ans, sans interruption, de courir à droite à gauche dans tout l'hexagone, voire l'Europe. Et donc il est un moment où il est plus sage de s'arrêter. N'ayant également jamais été blessé gravement, ce serait un peu bête maintenant, après tant d'années, de risquer quelque chose, sachant que c'est tout de même une activité qui est assez dangereuse.
Vous y aviez pensé depuis quelques mois, vous avez dit, tiens, 30, c'est un bon chiffre, on peut s'arrêter là-dessus?
Alors effectivement, tout au long de cette saison 2015, enfin de la saison passée 2015, ça m'a un peu, ça a cheminé dans mon esprit, et puis voilà, en fin de saison ça s'est décidé, notamment à la suite d'une très belle épreuve à Silverstone en Angleterre, le Walter Hayes Trophy qui a mis un point final. Voilà.
Vous êtes sûr que ça va pas manquer quand ça va reprendre les premières compétitions? Il va pas y avoir un manque quelque part?
Bon, peut-être un peu, mais pas plus, non, parce qu'il y a aussi une petite lassitude. C'est bon, la course automobile, on voit le beau côté des choses sur les circuits, les spectateurs, l'ambiance, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque course nécessite au minimum une semaine de travail avant. Donc c'est énorme de travail, c'est très répétitif, on fait toujours la même chose. Si on ne le fait pas, c'est fichu d'avance. Et donc, voilà, ce sont les vacances.
Oui, c'est les vacances. Bon, vous allez quand même rester dans ce milieu. La preuve, ce matin, vous êtes encore à ce rendez-vous des Rennes, hein, qui existe quand même depuis novembre 2008. C'est le troisième dimanche de chaque mois.
Oui, bah quand on a été vacciné à l'automobile, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Et bon, même en monoplace, je risque quand même de rouler un petit peu dans des divers événements.
Ah, c'est comme les journalistes, on ne s'arrête jamais.
Voilà, on ne s'arrête jamais. Et bon, à côté de ça, j'ai une grande passion pour les voitures anciennes, qui se matérialisent avec les rendez-vous de la Reine, donc tous les troisièmes dimanches du mois à Rambouillet. Et donc c'est quelque chose qui prend largement la place du sport automobile.
Comment est venu d'ailleurs, là je change un peu, comment est venu d'ailleurs ce rendez-vous de la Reine? Comment cette idée est arrivée?
Ce rendez-vous de la Reine est à l'initiative de quelques propriétaires de voitures anciennes à Rambouillet, devant la montée de cette mode des rassemblements, qui c'est actuellement quelque chose qui se pratique beaucoup partout en France. Et donc ils se sont dit, pourquoi pas à Rambouillet. Alors ça a commencé, je pense, avec 3 ou 4 voitures, si ma mémoire est bonne, en novembre 2008. Et puis après, ça n'a cessé de croître jusqu'à maintenant, et c'est réellement impressionnant. Il nous est arrivé à Rambouillet d'avoir 200 voitures anciennes le dimanche matin.
Alors venez, hein, vers 11h, vous allez partir, après cette émission, tout de suite vous filez et vous vous baladez dans la région, dans le coin?
Oui, à l'issue, à partir de 10h30, là tout à l'heure, eh bien, oui. Il y aura une promenade qui se fera Alors je ne sais pas où nous allons, mais...
Oui. Et vous partez pour 11h, une fois l'émission finie, hein?
Oui, oui, une fois l'émission.
C'est gentil. Voilà, oui, oui. Sinon, les autres vont partir à 10h30, mais vous, vous partez vers 11h.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc, pas de problème. Non, non, bah, ils débrouilleront bien sans moi. Ouais. Et donc, je pense que nous risquons d'aller vers... comment vers Saint-Léger-en-Yvelines, enfin dans ces coins-là, et puis pour une balade d'une quarantaine de kilomètres.
D'accord. Voilà. Et donc retour vers quelle heure? Alors, midi, le... 1h, 14h?
Non, non, le retour se fait à un restaurant où les où les il y a un petit repas le midi, et puis après chacun rentre chez lui.
Alors Pierre, on a fait au moins une bonne dizaine et quinzaine d'émissions ensemble hein, depuis qu'on se connaît. Il y a eu des souvenirs, je suppose, il y a tout plein de souvenirs. En 30 ans, il y a eu des moments peut-être plus forts que d'autres. C'est comme nous dans le journalisme. Hein. Il y a des moments qui ont marqué une vie, une histoire. Vous, ce sont lesquels? Quels ont été les temps les plus forts? Je sais bien qu'il y en a peut-être plusieurs et que c'est peut-être pas facile d'en extraire.
Alors, il y a quand même eu des moments assez, assez exceptionnels. Et puis, on peut dire, bon, ça a été une vie consacrée à l'automobile, quoi, finalement. Alors, je me demande si un des meilleurs moments n'a pas été ce podium à Montlhéry. Oui. Le premier podium à Montlhéry, en 87, quelque chose comme ça. Où, bon, bah, c'était vraiment une réussite, quoi, voilà, ça. Et c'est une grande aventure qui démarrait, donc, avec Lionel, qui m'a suivi pendant toutes ces années.
Eh oui, parce que, bon, vous étiez tellement liés, hein, chaque fois qu'on faisait les émissions, Lionel venait. Il faut dire que si vous arrêtez, c'est aussi la fin de carrière pour Lionel, hein, c'est fini, hein, sa carrière de mécano, à moins qu'il remplisse la déchaîne maintenant.
Il s'occupe d'autres personnes également, mais bon, ça n'est pas fini non plus. Mais effectivement, c'est quand même une petite page qui se tourne, voilà.
Il n'y a vraiment aucun regret, aucune mélancolie. Il faut vivre avec son temps, il y a des échanges dans la vie comme ça, où on doit effectivement tourner la page, Pierre.
Oui, absolument, il y a des moments où c'est comme ça. Non, non, il n'y a pas de mélancolie, pas plus.
C'est votre entourage aussi qui va être content, vos proches vont dire « Ouf, enfin, vous l'avez dit, vous n'avez jamais eu de grave accident. » Donc pour eux, c'est aussi un soulagement, parce qu'on sait qu'il y a toujours le risque d'un accident.
Oui, effectivement, le risque n'est jamais absent. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans des courses d'être confrontés au drame. Et bon, c'est toujours épouvantable. Et il faut savoir que quand on monte dans une voiture de course, malheureusement, tout peut arriver. C'est rarissime, mais quand même.
Alors, vous aviez parlé de vos bons souvenirs. Il y en a eu aussi des très mauvais, où vous avez eu franchement peur, où finalement vous vous êtes dit, ce jour-là, j'aurais pas dû venir.
Non. Et puis, je dirais même que si on a un problème dans un virage, ben le virage suivant, le tour suivant, on passe exactement comme il faut. Peur, ben on a toujours peur, oui, c'est tout de même impressionnant. Alors il y a des endroits qui sont quand même relativement effrayants. Bon, je pourrais citer le Raidillon à Spa, où on se met en apnée avant de l'attaquer, ça c'est caractéristique. Bon, la Parabolica, Monza, enfin des grands virages comme ça, qui sont. Et alors j'oubliais le fameux Paddock Bend à Brandzach.
Voilà. Bon, vous pouvez rappeler un peu quel a été votre itinéraire, votre parcours dans le sport auto? Vous avez fait plusieurs compétitions pour plusieurs formules.
Oui, alors, bon, pour faire simple, j'ai commencé par faire 7 ans de kart pour se faire la main.
C'est le début en général pour tout le monde. Hein.
Absolument, c'est une très bonne école, de 1977 à 1984. Ensuite, il y a eu à Montlhéry l'ouverture d'une école de Formule Ford, de pilotage. Alors, je m'étais dit, je vais aller voir ce que ça donne. J'ai suivi le cursus. Et puis, j'étais un peu trop vieux pour participer aux phases finales. Donc, les gens là-bas m'ont dit, mais achète-toi une voiture et fais des courses. Alors, ça me paraissait complètement irréaliste. Ouais. Et puis, finalement, en discutant avec Lionel, que je connaissais depuis déjà de nombreuses années, on s'est dit, bon, on va se lancer. Donc, j'ai acheté une voiture en 86, et puis voilà,
c'était parti.
C'était parti.
Hein, pratiquement tous les ans, faire un petit point dans nos émissions. Bon, il n'y a pas de regret. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, ça coûte cher l'automobile?
Alors, ça coûte cher, effectivement. Ouais. Encore que la Formule Ford où j'ai sévi soit, à mon sens, le meilleur rapport prix-performance, qualité, etc. Mais ça coûte quand même cher. Voilà. Alors, bon, pour faire simple, on peut considérer qu'un week-end de course, c'est 1 000 euros actuellement.
Oui, parce qu'il y a le déplacement, il y a toute l'assistance.
Et comment on est aidé d'ailleurs là-dessus? Vous avez des sponsors, vous avez des... Qu'est-ce qui vous aide là-dessus?
Certains, oui.
Alors, je dirais qu'au début de ma carrière, on arrivait à trouver un petit peu d'argent. Et puis, les années passant, maintenant, c'est complètement terminé. Mm-hmm. Donc, voilà.
C'est vrai qu'on a beaucoup moins de jeunes qui viennent nous solliciter, qui viennent à notre micro en disant « je fais de la compétition automobile ». On a eu ça il y a une vingtaine d'années. Hein. On en a connu, nous aussi, et qui malheureusement n'ont pas beaucoup continué, quoi.
Ben, il faut avoir un réseau de personnes qui vous aident. C'est beaucoup moins difficile pour nous qui sommes bien implantés dans le système, je dirais. Mm-hmm. Mais un jeune qui veut commencer, c'est très très compliqué.
Oui, oui, oui. Mm-hmm.
Très très compliqué, même financièrement, voilà.
Alors justement, Stéphane qui est avec nous, il va nous dire lui comment il a donc commencé. Et vous connaissez Pierre depuis longtemps, Stéphane?
Eh bien, on se connaît, oui, via le rendez-vous de la Reine depuis quelques temps déjà. Et puis, bah, le sport automobile nous rapprochant, bah, voilà, on se retrouve à votre micro aujourd'hui.
Voilà. Et vous, les débuts ont été comment? Aussi très durs financièrement, parce que il faut le dire, faut pas s'en cacher, c'est le problème du sport automobile et de tous les sports mécaniques. Hein.
Alors, le sport automobile, déjà, il faut commencer par avoir une automobile, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Après, il faut la préparer. Donc, nous, effectivement, on a une préparation assez soutenue, assez intense pour le Monte-Carlo, avec l'achat de pneus cloutés, avec préparer la voiture, bien la réviser, faire tous les réglages possibles avant un rallye aussi long. On a fait à peu près 4000 km. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, donc de l'argent. Et nous, on a eu la chance d'avoir un sponsor qui nous a aidés. Si je peux le citer, c'est DC Pilote, qui a été tout de suite emballé par notre aventure. Ils ont vu le côté entreprenant, dynamique, qu'on allait justement tenter une aventure humaine et bon, également bien sûr sportive. Donc ils ont été bien présents dès le début et ça nous a quand même facilité la tâche. Mais ça n'empêche que c'est un coût important. Nous, c'était beaucoup plus onéreux qu'un week-end de course. Et la course a duré 5 jours, 4000 km. L'engagement, l'Automobile Club de Monaco, l'organisateur, est assez élevé. Bon, c'est 4800 euros. Hein, on peut donner des chiffres maintenant. Bon, pour ce prix-là, il y a 5 jours de course avec des commissaires partout, donc des officiels. Nous, on avait les hôtels qui étaient inclus dedans, des repas, etc. Mais c'est un coût.
Oui. Donc, c'est vos sponsors, c'est un peu vous qui mettez la main à la poche, un peu comme les gens pour les bateaux, pour les voiles, c'est pareil, hein. Certains, bah oui, sur leurs données personnelles.
Alors, tout à fait, DC Pilote était présent, mais on a mis largement la main à la poche, hein, avec Benoît Huillon, mon partenaire, qui est souffrant, qui n'est pas là ce matin. Mais bon, on a bien sûr participé grandement, mais c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà, donc on a mené à bien cette aventure. Et on a également eu des membres de l'association qui nous ont fait des dons, qui nous ont encouragés, et ça c'était sympa, on a été soutenus dès le début, c'est une belle aventure. Il y a eu un engouement pour ce rallye, pour cette participation, et bon, c'est vrai que c'est mythique dans les épreuves de l'année, donc c'est pour ça que tout le monde était derrière nous, et nous remercions bien sûr tout le monde de ce fait, encore une fois.
Oui, alors on va rappeler, le rallye de Monte-Carlo historique, ça, je crois que ça se déroule quelques jours après le vrai Monte Carlo, hein, celui qui lance la saison sur les rallyes et qui a gagné donc Sébastien Ogier cette année.
Tout à fait, c'est Sébastien Ogier qui l'a gagné et nous, le Monte Carlo partait juste une semaine après. Mm-hmm. Par contre, le déroulement du rallye, c'est plus comme le Monte Carlo des années 70-80 avec des départs de villes de concentration. Nous, on est parti de Reims pour se retrouver à Monaco et le parcours est beaucoup plus étalé que le WRC qui, lui, restait autour de Gap et de Monaco cette année, alors que nous, on a parcouru l'Ardèche, le Vercors, les Alpes de Haute-Provence, bien sûr. Enfin bon, un grand, grand parcours, 4000 km de bonheur.
Avec le célèbre col du Turini, non? Non, oui.
Alors tout à fait, non, la dernière nuit, c'est la fameuse nuit du Turini. Alors, moi, j'ai pas mal participé à ce rallye en tant que photographe et c'est la première fois où je le faisais comme concurrent et donc je découvrais vraiment le Turini, le vrai Turini de nuit. Alors cette année il y avait du brouillard donc les conditions étaient assez difficiles et bon c'est mythique quand on débouche, on est en pleine nuit dans les lacets, c'est la montagne, on arrive là-haut, il y a des éclairages du monde partout, les flashs crépitent, on passe et puis 3 secondes après on repart dans le noir. Là je l'avais vu à la télé, j'avais eu des reportages. On l'a vécu avec Benoît et on est très content de cette expérience. C'est quelque chose à vivre, à faire et c'était un grand, grand plaisir.
Oui, donc c'était un rêve d'enfant finalement de faire le Monte Carlo. C'était Mythique, c'est mythique, c'était depuis des années et des années un projet qui était chez vous.
Alors oui, en fait, le Monte Carlo, moi j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais ado, il y a 30 ans. Mm-hmm. Donc je l'écoutais sur
RMC, avec Bernard Spender et Jean-Louis Filk, vous voyez.
Bah, exactement, donc je vois que nous avions les mêmes émissions, on était à l'écoute des mêmes émissions. Et donc effectivement, moi j'écoutais ça la nuit, ça m'a passionné dès le début. Et en fait, après, bah, je suis allé voir plusieurs départs. Dans les années 80, je suis descendu sur Monaco voir le rallye. Mm-hmm. Et puis lorsque le rallye Monte Carlo historique s'est mis en place, je suis allé le voir, c'était en 2003 la première année, et puis depuis bah, je le couvre, je prends des photos, et puis cette année j'ai la chance d'avoir pu participer. Donc effectivement c'est un rêve de gamin d'il y a 30 ans. Benoît, je vais parler en son nom, lui aussi, à force de lui en parler, on avait des projets, bah, il s'est dit tiens on va le faire, donc il a été au moteur aussi pour trouver la voiture, travaillant chez Renault, bah, en fait il a tout de suite trouvé la bonne voiture, donc on est parti avec une Renault 30 TS qui est un choix surprenant, oui. Original, et c'était la première fois qu'il y en avait une, et peut-être la dernière, hein, on sait pas, mais de ce fait c'était quelque chose de sympathique à préparer, à mener. Et pendant tout le rallye, on a eu un engouement populaire assez important. Tout le monde allait nous dire, tiens, c'est la voiture du tonton, du grand-père, du voisin, de l'assistance. Beaucoup de gens du rallye disaient, non, on la prenait pour assistance parce que s'il y avait de la place, elle était puissante et tout, on la chargeait. Nous, on a fait notre assistance tout seul. On leur disait, oui, bah, nous, l'assistance, on fait tout. On est concurrent, on fait l'assistance. Et voilà, donc c'était grâce à Benoît qui a trouvé la voiture, qui l'a bien préparée. Donc, on a pu mener ce rallye à bien.
Bon, vous avez terminé 281e, c'est ça?
Oh non, on a terminé 210e.
210, oui, c'est mieux encore.
Alors, il y avait à peu près 300 équipages au départ. Donc, on termine 210e. Le rallye s'est bien déroulé, mais on a eu quand même quelques petites péripéties. On a eu dans une des ZR notre trip qui permet en fait de calculer exactement à combien doit rouler la distance qui s'est coupée. Donc on a été pénalisé dans une des spéciales pour ça. Ça nous a pas empêché d'être plutôt assez performants au début. Et après, on a eu des problèmes de surchauffe. Quand on attendait longtemps avant de passer dans les spéciales, la voiture chauffait un petit peu. Bon, c'est une voiture qui a quand même 30 ans, qui est pas faite pour être menée quand même à ce rythme-là. Nous, c'était une voiture strictement d'origine, donc on n'a pas trop voulu la booster. Et bon, voilà, on avait ces problèmes de chauffe. Donc pendant deux spéciales, bon, on a ménagé un petit peu aussi au début. Donc on est très content, on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux sans tous ces petits pépins, mais on voulait arriver, on voulait absolument vivre cette aventure jusqu'au bout, ce que nous avons réussi à faire, et voilà.
Alors s'il y avait eu de la casse, vous étiez, c'était l'abandon ou il y avait possibilité avec une assistance de réparer?
Alors, avec l'assistance, donc on peut réparer toujours, et comme c'est un rallye de régularité de voitures anciennes, on peut ne pas faire quelques spéciales, et vous pouvez reprendre le rallye après. D'accord. La seule chose, c'est qu'il faut pointer le soir, à l'étape, avec un délai d'une demi-heure maximum à pas dépasser. Donc ça laisse la possibilité d'essayer d'aller réparer. Tout seul pour nous ou avec les assistances, tous les équipages ont des assistances sur place, donc en fait ils appellent, s'il y a un souci ils arrivent, ils ont tout ce qu'il faut pour réparer, et après la voiture repart. Vous loupez une spéciale, c'est des points de pénalité, mais au moins le soir vous êtes là et vous repartez. Et parfois pour des conditions extraordinaires, l'Automobile Club de Monaco permet quand même de repartir si vraiment vous étiez hors délai pour une bonne raison. Exceptionnellement.
Ouais. Donc physiquement c'est très dur, c'est très éprouvant, je suppose qu'on dort bien, on se prépare physiquement avant. Parce qu'il y a la voiture, mais est-ce qu'on va courir un peu, on va faire un peu de vélo, histoire d'être en forme?
Ah bah tout à fait, non. Moi j'adore le VTT, donc en décembre, je partais tous les dimanches, même le vent, la pluie ne me faisait pas peur, j'allais rouler. Oui, il faut se préparer, c'est la première nuit, l'étape de concentration par le vendredi soir de Reims, on est parti à 20h30, et on arrive que le lendemain soir à Monaco à 18h30, on a dû dormir peut-être aller 10 minutes, et quand je dis dormir, on a fermé les deux paupières, mais vous dormez pas vraiment, parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps. C'est le rallye calculé, c'est-à-dire que vous avez des étapes et vous devez être à l'heure. Donc on y arrive, parfois 10 minutes, un quart d'heure d'avance, mais tout de suite il faut se mettre dans la file des voitures qui vont repartir, parce que si vous pointez en retard, c'est des pénalités. Donc en fait, vous n'avez pas le temps de souffler. Il y a juste à Bourgoin-Jallieu, dimanche au petit matin, où là on est arrivé, on est bien roulé dans la nuit malgré le brouillard. L'étape de concentration était assez difficile, il faut rouler toute la nuit et le brouillard était assez intense. On avait à peu près une demi-heure d'avance, c'est pour ça que là on a pu, pendant 10 minutes, on avait emporté des masques d'avion, et on avait mis nos masques, et comme ça, bah, pendant 10 minutes, on a reposé les paupières. On a un ami qui lyonnais qui est venu nous voir, donc il nous a apporté une thermos de café, un petit café, une barre de céréales, et puis on est reparti. Mm-hmm. Et le samedi, on a enchaîné avec la première ZR dans l'après-midi. Donc voilà, non, c'est intense. Hein. Dès le premier jour, c'est Reims-Monaco avec une spéciale, tenir les moyennes, donc c'est assez éprouvant physiquement.
Mmh. Et est-ce qu'il y a des périodes de doute? Est-ce que dans les 5 jours, là, vous avez eu des périodes de doute où vous vous êtes dit, non, là, c'est, on peut pas continuer? Est-ce qu'il y a eu une grosse galère ou quelque chose qui vous a fait douter?
Alors, on a eu, en fait, ces petits problèmes de chauffe, en fait, au départ des ZR, au début, on ne savait pas ce que c'était. Mmh. Et la voiture coupée, avait des soubresauts, ça cognait dans tous les sens. Mmh. Les routes, en fait, que l'on empruntait n'étaient pas très, très bonnes. Donc, en fait, à un moment, on s'est dit, tiens, c'est pas possible, on a cassé quelque chose parce qu'on était secoué dans tous les sens. Mmh. Donc là, on a eu un gros doute. J'étais au volant à ce moment-là, j'ai dit à Benoît, bah, écoute, on essaye de sortir coûte que coûte. De toute façon, on ne peut pas rester là. Si on reste là, on bloque le rallye, ce n'est pas le but du jeu. Donc, on sort et on voit ce que ça donne. Donc, j'ai roulé doucement, en testant un petit peu. Je lui ai dit au bout d'un moment, non, bah, on avance, ce n'est pas le cardan, ce n'est pas la direction. Et en reprenant le rythme, la voiture s'est mise à pas trop mal fonctionner. Donc, on a perdu là beaucoup de temps, comme je disais tout à l'heure, mais on a pu quand même enchaîner. Dans la même spéciale, un petit peu plus loin, dans la même zone de régularité, en fait, c'est pas des spéciales, c'est des zones de régularité, la voiture a coupé, en fait, en coupure moteur. Comme on était dans une descente, j'ai pas paniqué, j'ai mis la 2 au point mort, la 2, et avec l'élan, hop, elle est repartie, on a pu finir la ZR comme ça. On s'est tout de suite arrêté, on a regardé les roues, on est descendu de la voiture, donc là on a eu franchement un gros doute, on a cru que le rallye s'arrêtait là. Et en fait, rien de particulier, donc on est reparti, et la ZR d'après rebelote, et c'est là où on a pu effectivement dire que c'était notre problème de vapeur lock, que la voiture chauffait. Et donc là on s'est dit, c'était la dernière zone de régularité du mardi, et on devait enchaîner la nuit du Turini dans la foulée. Et donc là on s'est dit, le Turini, on nous la fera pas, on va pas laisser la voiture tourner. On coupait le contact, on repartait. Donc, quand on pouvait l'avancer comme ça sans trop la mettre en route, on la poussait un petit peu. Et en fait, on a ménagé la voiture. Donc on a quand même eu peur de pas finir, je dois bien le dire, pendant ces deux ZR. Et une fois après qu'on a compris ce qui se passait et qu'on a fait ce qu'il fallait, en fait, il n'y avait rien à faire au niveau assistance, il fallait juste en fait la laisser refroidir. Donc la dernière nuit du Turini s'est super bien passée. Alors on s'est fait quelques petites chaleurs, parce qu'on disait que tout à l'heure c'était mythique de passer au Turini, mais la route est piégeuse, il y a beaucoup de lacets, pourcentages sont énormes, hein, ça monte, ça descend. Donc bon, on a eu quelques freinages un petit peu appuyés, les freins au bout de 40 km de ZR dans la montagne, nous on était très chargés, les freins ils étaient un petit peu en bout de course, donc on a eu quelques freinages chauds. Benoît s'en est fait un, je m'en suis fait un, donc là on a décidé d'arrêter, de rentrer tranquillement, ce qu'on a fait, on a rallié Bonport à Monaco le mercredi matin.
Très bien, allez, la pub, la musique, et puis naturellement on repart après dans notre R30, on y va.
De la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. Au cœur de la vallée de Chevreuse, les Salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les Salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h, un buffet dînatoire à volonté. Boissons et soirées nightclub incluses à 45 euros. Le dimanche à partir de 11h, un brunch avec après-midi dansant et animation pour enfants à 39 euros, enfants 15 euros. Et un thé dansant de 15h à 18h avec son buffet gourmand à 15 euros. Les Salons Léopold, la vallée à Cernay-la-Ville. Réservation et informations au 01 34 85 20 02 et sur www.salonleopold.fr.
Nature et Bébati Service, entreprise située à Vieille Église, interviennent dans toute l'Île-de-France et proposent différents services pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Nature Service, spécialiste de vos espaces verts avec ses équipes de paysagistes et élagueurs diplômés. Bébati Service, entreprise tout corps d'État répondra à tous vos travaux de bâtiment. 50% de déduction d'impôts possible sur de nombreuses prestations. Un conseil, un devis gratuit. Contactez Nature et Bébati Service au 01 30 50 06 96 ou sur le www.natureservice.fr.
La Cime Verte et la Gage à Vieille Église vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin ? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler ? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences ? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage. Ferme de la Quaqueterie à Vieille Église, proche de Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Avec Benoît, tout va bien, il n'y a jamais eu un seul coup de gueule, il y a une énorme complicité entre vous. Parce que comme ça, quand on est dans une compétition sur 5 ou 6 jours, il doit y avoir des moments de stress quand même.
Alors en fait, non, ça s'est vraiment bien passé. Alors on avait déjà fait des rallyes quand même ensemble, hein. C'est pas le premier rallye que l'on fait ensemble. Par contre, le Monte Carlo, c'est assez éprouvant parce qu'en fait, on est assez fatigué, c'est long, les conditions de route sont difficiles. Donc on aurait pu soit l'un soit l'autre avoir des coups de mou ou avoir des gros problèmes de navigation et tout. Non, en fait, ça s'est vraiment bien passé ensemble. Les quelques petites erreurs de navigation, finalement, on s'en est très vite sorti. Et encore une fois, c'était vivre ce rallye de l'intérieur, éprouver les mêmes sensations que pouvaient éprouver les pilotes à l'époque. Donc en fait, non, nous on voulait vraiment, vraiment arriver. Et en fait, non, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est bien déroulé entre nous, pas de soucis.
Ouais. Je me souviens que Pierre m'avait dit avec Lionel, il n'y a jamais eu la moindre engueulade en 30 ans de carrière. C'est fabuleux, hein, parce que des fois, dans le flou de l'action, bon.
Oui, oui, non, mais c'est un peu la même chose. Jamais de problème. Alors bon, des fois quelques mots comme ça, mais jamais rien de
notre... jamais de reproche en plus.
Non. Et puis je dirais que même si ça nous est arrivé l'un et l'autre des fois de faire des bêtises, voilà, c'est...
Sachant c'est la règle du jeu, c'est une aventure à deux, donc
tout à fait. Oui. Non.
Donc Stéphane, vous allez repartir l'année prochaine sur le Monte Carlo historique ou maintenant vous avez ciblé sur autre chose, maintenant que le rêve il est concrétisé?
Alors le Monte Carlo historique, je vais repartir sûrement comme photographe l'année prochaine. Donc je peux citer, c'est pour motorsportlegende.com qui est un site de photos en ligne. En fait, je mets des photos sur différents rallyes de régularité cartographique, même des rallyes du championnat de France, le tour auto. En fait, bon, mais des photos sur ce site et pour proposer aux équipages.
Donc vous êtes comme nous des hommes de presse quoi aussi, hein.
Ah mais tout à fait, j'ai adoré ça. Pour la petite histoire, j'avais fait un stage à Échappement, le magazine automobile, c'était en 1986. Et à la fin du stage, c'était bien passé, il m'avait demandé si je voulais rester. Bon, j'étais en même temps à la fac de médecine pour des études plutôt médicales et les sciences humaines m'attiraient un peu plus.
Et souvent ça, les journalistes, c'est des voies bifurquées.
Et donc finalement, j'étais parti dans la voie médicale, mais le sport auto, la presse, les journaux, j'ai toujours été abonné, j'ai toujours lu tout ça, les reportages. Et en fait, donc je suis très content de baigner un petit peu dans ce milieu. C'est très plaisant. Je prends autant de plaisir à aller sur des épreuves, à prendre des photos, à rencontrer les pilotes, qu'à participer. Faut faire les deux, quand on peut.
D'accord. Donc vous repartirez comme photographe, mais sur d'autres épreuves, par exemple, vous avez déjà coché une date, hein, avec Benoît?
Alors on va avec Benoît, effectivement. Donc on a monté une association pour courir qui est le Vieille Église Racing Team. Ah, donc ça va vous parler, ça. Et qui a pour but, justement, de participer à ce genre d'épreuve avec des voitures historiques. Donc on est en train d'essayer de mettre un programme. Oui, on va refaire des rallyes. Pas ceux que l'on connaît déjà, pas le Monte Carlo l'année prochaine, parce que si on devait le refaire, ce serait dans d'autres conditions, et puis il faut se laisser un petit peu de temps. On a, pour le Monte Carlo historique, on a des projets pour l'avenir, mais c'est pas dans l'immédiat. Par contre, effectivement, là, on est en train de mettre au point le programme de l'année 2016, et oui, il y aura d'autres participations à venir.
D'accord. Lesquelles? On ne sait pas encore.
Alors, il y a des rallyes, un rallye du côté du Mans qui nous plairait bien, il y a quelques épreuves en fait, alors il y en a d'autres, il y a les routes du Vexin par exemple, qui est un rallye très connu en Ile-de-France, mais là je vais le couvrir comme photographe, donc encore une fois, je peux pas tout faire, sinon, on aurait bien aimé le faire celui-là, mais bon, on peut pas être derrière le volant et derrière l'appareil photo.
Oui, et avec Benoît, vous vous connaissez depuis combien d'années avec Benoît, et comment est venue cette idée de courir ensemble?
Alors en fait, avec Benoît, on s'est rencontrés il y a 7-8 ans pour des raisons professionnelles. Et en fait, très vite, je lui montrais les photos que je prenais. Benoît a toujours été passionné par l'automobile, le sport auto. Et en fait, on a dit, tiens, si on allait faire, on va aller voir tel événement ensemble. On a un ami commun, en fait, c'était un ami de Benoît qui fait de la compétition, qui très bon coup de volant, qui a gagné la Coupe de France de course de côte. Donc en fait, on s'est déplacé de plus en plus à droite à gauche pour aller voir ces événements. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a monté ces programmes rallye, on court ensemble et on est très content. Et voilà, on veut que ça continue.
Ouais. Géraldine, ça plaira un jour d'aller dans la voiture faire un essai?
Ah mais complètement, complètement. Moi je suis là, hein. Si vous avez besoin de quelqu'un à côté, même pour prendre des photos éventuellement, pendant que vous conduisez, il n'y a aucun souci, je peux être là. Ouais.
Un petit reportage en direct, ça serait bien, hein, Pierre. Hein. Et Pierre, vous n'allez pas des fois les aiguiller, les conseiller maintenant dans leur prochain rallye?
Ah ben, pourquoi pas, mais par contre, leur aventure m'a donné une idée, c'est... Voilà. C'est bon, comme tout le monde, j'ai toujours suivi les rallyes de Monte-Carlo depuis longtemps, etc. Et donc d'aller éventuellement refaire les spéciales.
Oui, qu'on ne s'arrête jamais.
Non, il ne faut pas, hein, d'ailleurs.
Ouais. Donc c'est peut-être aussi dans vos projets de refaire des spéciales sur le prochain rallye de Monte-Carlo historique.
Non, ou d'aller faire les spéciales en dehors du rallye, mais pour voir voilà, pour voir la route.
Mm-hmm. Oui, c'est un peu comme ceux qui font le Tour de France au mois de mai, qui vont monter l'école mythique du Tour qu'on va vivre en juillet, quoi.
Bah, justement, en fait, comme c'est un rallye de régularité sur route ouverte, ça a cette particularité que les zones de régularité ne sont pas fermées à circulation. Oui. Donc en fait, là, l'Automobile Club de Monaco nous demandait de tenir des moyennes entre 48,8 et 49,9 suivant les zones de régularité, mais c'est ouvert à la circulation. Et donc beaucoup d'amateurs de voitures anciennes, pendant le rallye, passaient, c'est mieux avant ou après, pour se faire plaisir, pour faire le même parcours, pour avoir la même adrénaline et pour vivre la même chose. Et nombreux sont ceux qui vivent le rallye comme ça. Pareil, quand je vais prendre des photos, moi je prends les ZR, je passe avant, et c'est un grand plaisir de rouler sur ces petites routes avec toute cette ambiance du rallye. Il y a un monde fou partout, il faut vraiment le vivre, et c'est très très populaire dans le sud-est, on est bien reçu partout, donc le faire uniquement comme passionné, comme au volant d'une ancienne ou même d'une moderne, mais refaire un peu le parcours, c'est déjà un grand plaisir.
Bah, vous savez ce qu'on fera ? On vous accompagnera sur une étape l'année prochaine. Si vous repartez sur Monte-Carlo de nuit, on ira voir. C'est sympa, ça doit être quelque chose assez journalistiquement de fabuleux à faire. Hein.
Bah, écoutez, vous viendrez, vous ferez un direct en pleine nuit, à 3h du matin, du col du Turini, les pieds dans la neige. Et ce sera un grand plaisir pour tout le monde au chaud, ici à l'église, près des cheminées, de vous entendre. Non, c'est une bonne idée. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on adore. Si on peut le faire partager, le faire découvrir, que ça suscite des vocations et puis dire que rien n'est impossible. En fait, nous on l'a fait tout seul sans assistance avec une voiture qui n'était pas trop connue, mais c'était pour dire oui, on peut le faire. Et beaucoup de personnes sont venues nous voir en nous disant bah, c'est super votre aventure, mais ça coûte combien? On ne sait pas qu'on pouvait le faire comme ça. Et voilà, partageons, vivons ces belles aventures, avançons. Et puis voilà, faut donner. Moi, franchement, ça fait 30 ans, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de choses du Monte Carlo parce que c'est un grand plaisir. Mais autant le transmettre maintenant, autant partager sa passion et puis faire vibrer un peu tout le monde sur ce rallye.
Bon, la voiture, elle est où maintenant là? Elle est intacte, elle est réparée depuis, non?
La voiture, vous la voyez, elle est juste derrière, vous allez aller la voir. En fait, on n'a eu aucun souci pendant le rallye, donc elle est intacte. On lui laisse ses peintures de guerre, j'aime bien dire ça entre guillemets, le temps de l'exposer, de la montrer justement aujourd'hui au rendez-vous de la Reine. Comme tout le monde nous a bien soutenus, bah, c'était vraiment c'était la moindre des choses que de venir la présenter. Et puis bon, nous on avait envie de venir, hein, faire la balade, la faire rouler encore un peu, alors même si Benoît est pas là ce matin, mais c'est pas grave, donc je participe. Et donc voilà, la voiture va rester comme ça un petit peu, et puis je pense qu'après, bah, elle va reprendre sa petite vie sage et tranquille, on va remettre les banquettes arrière, et puis voilà, fini le rallye peut-être pour elle, elle aura une autre vie maintenant.
Alors venez voir cette voiture qui a terminé 210e du rallye de Monte-Carlo historique.
Mais en fait, on peut monter dedans ou comment ça se passe si on a envie de monter dans votre voiture avec vous, comment ça se passe?
Ce matin, ils peuvent vous accompagner, non?
Ah oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est que bah, quand vous allez la voir, il n'y a plus que deux places, parce que l'arrière, on a retiré les banquettes, il y a les roues cloutées, il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, oui, bien sûr, on peut vous emmener faire une petite balade et voir un petit peu comment ça se passe. Ça, il n'y a pas de souci. Avec plaisir.
Donc, tous ceux qui nous écoutent, là, peuvent venir et demander à venir faire monter dans la voiture. C'est ça, le principe. On est
jusqu'à 11h, parce qu'après, ils sont bons. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors, en fait, quand on était à Reims, nous, on a eu des garçons, des enfants, des adolescents qui sont venus nous voir et on était dans le parc de départ, ils sont montés dans la voiture, on leur a expliqué ce qu'on faisait, on leur a montré les cartes, voilà, donc en fait oui, n'hésitez pas, venez nous voir, on vous expliquera exactement comment se déroule la régularité et puis voilà, si on a suffisamment de temps avant de partir pour faire un petit tour, oui, avec plaisir.
Alors Stéphane, au niveau des jeunes qui voudraient se lancer dans la compétition, vous l'avez dit, c'est encore possible, c'est jouable malgré le fait que c'est un sport qui coûte très cher.
Alors c'est jouable parce qu'en fait ce sont des véhicules historiques, donc il y a des voitures qui sont pas si onéreuses que ça. Alors bien sûr, si vous voulez une Porsche 911, une Alpine Renault, pour pas citer la marque qui renaît de ses cendres, et bon, ça coûte quand même très très cher. Mais par contre, il y a quelques petites voitures, même des populaires comme nous, qui sont tout à fait abordables et qui permettent de faire le rallye. Bon, maintenant il faut acheter la voiture, bien la préparer, parce qu'encore une fois elle est soumise à dure rude épreuve, donc ça a un coût, mais on peut quand même courir sans dépenser toute sa cagnotte. Mais le Monte Carlo est un rallye long et cher. On peut aussi se faire plaisir avec des rallyes un petit peu plus courts, des rallyes de régularité cartographie, et là c'est quand même beaucoup moins onéreux.
Oui, bien sûr. Est-ce que dans vos rêves, il n'y a pas aussi un jour de faire le Dakar? Bon, c'est une toute autre épreuve, hein. C'est un autre monde du sport mécanique, mais est-ce que c'est pas aussi un jour dans vos rêves de dire, après tout, certains l'ont fait, bon, maintenant c'est l'Argentine en plus, hein, donc bon. Ça vaut le coup aussi.
Là, vous me piégez un peu, parce qu'en fait, quand on est revenu de l'aventure du Monte Carlo l'autre jour, il y a quelques membres étaient là à nous attendre, ils nous ont dit, ah, vous avez recommencé l'année prochaine, c'est trop bien. Ah, je leur ai dit, non, peut-être pas l'année prochaine comme ça, mais il y a d'autres projets qui germent, etc. Et donc en fait il existe le pendant du Monte Carlo historique, mais pour le Dakar il y a pas mal de rallyes de régularité pour véhicules historiques 4x4 qui se déroulent au Maroc. Oui. Et donc en fait oui, c'est vraiment l'objectif, ce serait un jour de connaître effectivement aussi la joie de courir sur les pistes, d'aller avec un bon vieux 4x4 faire des rallyes dans ce coin-là. Oui.
Oui, c'est une autre forme de compétition automobile, hein. C'est autre chose quand même. Hein.
Ah oui, là c'est... Bon, les véhicules sont soumis encore à plus rude épreuve, mais le principe reste le même, hein. C'est tenir des moyennes, le rallye, bon, même s'il y a différentes formes, et ça reste toujours pointé à l'heure, remplir, avoir des objectifs, tenir la moyenne, voilà.
Ouais. Ne pas trop dormir la nuit.
Ne pas s'endormir surtout. Ouais. Alors tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, Benoît avait eu quand même quelques petits signes de fatigue à un moment, c'était le samedi après-midi, et à un moment, j'ai dit, la première fois, j'ai dit, ça va, oui, et la deuxième fois, j'ai dit, écoute, là, on s'arrête, je prends le volant, il va aller mieux, en fait, on se relayait, en fait. Mm-hmm. Et c'était ça qui était bien, c'est-à-dire que voilà, l'un était pilote, l'autre copilote, donc ça nous a permis en fait de même nous de nous reposer un petit peu, et c'était ça qui était important. Et bon,
Pierre, le Dakar, vous l'avez pas fait encore, c'est peut-être maintenant que vous allez être libre sur le plan du sport automobile, c'est peut-être un nouveau projet qui peut se faire. On a souvent reçu, hein, ce qu'on appelait des poireaux, nous, à notre micro, aujourd'hui il y en a un peu moins qu'ils font, mais est-ce que vous, pourquoi pas?
Non, comme je l'ai dit souvent à ce micro, ça n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je serais plus attiré par les rallyes sur asphalte, voire sur terre quand même, donc que par le Dakar. C'est le bitume, notre ligne de conduite.
D'accord. Alors tiens, on va commenter la CUM maintenant, hein, parce que cette émission déjà touche à sa fin. Ça vous plaît actuellement ce qu'on voit à la télé pour le championnat du monde sur les rallyes? Par exemple, Sébastien Ogier écrase comme l'homme écrasé donc l'épreuve auparavant. Est-ce que en tant que spectateur amoureux du sport, ça vous plaît?
Oui, ça a toujours été un petit peu comme ça. Donc, je dirais même en Formule 1, souvent une équipe se détache et puis gagne tout. Bon, c'est ainsi. Hein. Sébastien Ogier est visiblement très très doué. Et moi, je n'ai jamais vraiment vu les voitures de rallye actuelles, mais c'est un spectacle absolument inouï.
Vous, Stéphane, en tant que photographe, vous devez souvent suivre certaines de ces épreuves. Hein. Ça vous passionne? Bon, c'est sûr qu'on a un autre regard, nous, différent. Les journalistes, on est dedans, donc fatalement, c'est un peu différent du grand public. Mais le fait qu'un coureur comme ça et une écurie écrase la compétition, est-ce que c'est bien pour le spectacle?
Alors, d'abord, je pense qu'il faut féliciter Sébastien Ogier, qui a un talent réel, il ne faut pas le nier. C'est son passé de skieur, je pense, plaide pour lui. Avant,
le centre de l'anticipation. Hein.
La trajectoire, la vitesse. Ouais. Sébastien Loeb, avant, était aussi un surdoué. On a la chance d'avoir en France des très bons pilotes de rallye. Il y a tout un système de formation au niveau de la Fédération Française de Sport Automobile qui permet à des jeunes d'éclore et justement après d'atteindre le plus haut niveau. Donc, donc au contraire, il faut les féliciter. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage, on préférerait qu'il y ait un peu plus de bataille. Alors Citroën est en train de préparer une voiture pour l'année prochaine. On espère que justement, elle permettra aux pilotes de l'année prochaine, on ne sait pas si ce seront toujours les mêmes qui seront au volant, mais de se batailler avec Sébastien Ogier, avec Volkswagen, et puis avoir des courses un peu plus palpitantes. C'est vrai que Sébastien Ogier écrase la concurrence. Et puis, bah, félicitons-le, parce que il faut quand même, quand on les voit passer, donc moi je suis souvent au bord des spéciales, c'est spectaculaire, mais il faut être très fort, tenir la voiture sur la route dans ces conditions-là, c'est pas donné à tout le monde, ça devient un art. Donc, félicitons ceux qui gagnent, et puis ceux qui sont derrière, bah, il faut qu'ils travaillent, et puis tout doucement qu'ils réduisent l'écart. À eux de jouer.
Oui, et Sébastien Loeb a été un des plus grands champions du sport français. Hein. Il a remédiatisé sa discipline.
Ah bah tout à fait. Ça a été le pilote emblématique en plus le retour de Citroën. Il faisait partie de la filière Citroën. Donc au début, il courait avec une petite Saxo et puis il a monté. Il a franchi les étapes et pour finir en fait au championnat du monde. Et c'est vrai que bon, c'est la référence en fait. Même si Sébastien Ogier est très fort pour l'instant, c'est Sébastien Loeb qui reste la référence au niveau du rallye, comme on peut avoir en Formule 1 Michael Schumacher.
Oui. Et ces nouveaux défis qu'il va faire maintenant, là, parce que fatalement, après, pour garder l'ivresse de la compétition, quand on a été plusieurs fois champion sur les rallyes, 9 fois je crois pour l'OB, faut bien lancer de nouveaux défis, sinon on trouve la vie beaucoup moins gaie. Hein.
Alors là, en fait, il s'est lancé donc un nouveau défi. Jusqu'à l'année dernière, en fait, il courait pour Citroën en circuit. Et là, maintenant, en fait, il a participé au Paris-Dakar. Mm-hmm. Tout le monde l'a suivi. Très belle course d'ailleurs, bon, avec quelques petites péripéties. Mais...
Ah bah, il va apprendre le métier, là, sur le Dakar. Il va vite, mais il ne fait pas que d'aller vite au Dakar.
Tout à fait. Et puis, avec son coéquipier, ils avaient quand même, avec Daniel Elena, ils avaient quand même pas mal de choses à découvrir. Donc, mais c'est déjà bien, c'est une belle expérience. Ils ont fait quelques rallyes avant, et donc c'est bien. L'expérience, ils vont l'avoir, et je suis sûr qu'ils vont être très performants, et même peut-être remporter la victoire dans les prochaines années. Et puis, en fait, surtout son actualité, c'est qu'il a monté en fait un programme. Alors, il a une écurie qui court en circuit dans différentes disciplines, mais également, il vient de monter un programme pour pousser des jeunes en rallye, pour faire les championnats du monde. Et donc, ça y est, il a monté sa structure. Et cette année, donc, on va voir le Sébastien Loeb Racing en tant que préparateur en rallye. Et ça, c'est peut-être l'avenir aussi. Je pense qu'il prendra du plaisir à trouver des jeunes talents, à les aider, à les guider, à les coacher. Et puis voilà, peut-être que l'avenir, ce sera une grande, grande écurie au niveau mondial.
Et la Formule 1, ça vous passionne? Parce que ça aussi, la Formule 1, on parlait des années Schumacher, il y a eu les années Vettel, maintenant c'est Mercedes qui écrase avec Hamilton et puis Rosberg. Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à Canal+?
Alors, moi je vous dirais oui, parce que tout le sport automobile vaut le coup. Par contre, c'est vrai que quand on a connu les années de sport automobile, les grands prix avant, moi j'ai eu la chance de me déplacer. Pierre parlait de Spa tout à l'heure. Moi j'ai vu un grand prix de Belgique de folie où, comme d'habitude, il y avait du soleil, de la pluie. Donc, quand on a connu la Formule 1 d'avant.
Oui, des années 80 où il y avait plusieurs champions du monde potentiels. Hein.
Oui, et puis plusieurs champions du monde, les courses étaient à rebondissement. Là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est presque une course de voiture plus que de pilote. Quand vous avez la meilleure voiture, bah, vous finissez un ou deux ou deux ou un. Donc en fait, ça manque un petit peu de piment. Même si encore une fois, il faut féliciter les pilotes, c'est jamais évident. Ça reste sport automobile. La casse peut être présente, les incidents de course. C'est un sport à risque. Pierre en a parlé tout à l'heure. Donc c'est pas évident. Donc félicitons ceux qui le font, les vainqueurs. Par contre, ça manque encore une fois un petit peu de suspense. Mais Renault revient. Encore une fois, je parle de notre fameuse firme aux losanges. Donc, donnons-leur un tout petit peu de temps, mais je suppose qu'ils vont être assez vite compétitifs et ils vont venir pousser un petit peu Mercedes dans ces derniers retranchements. Et ça annonce quand même, peut-être pas pour le début de la saison, mais à partir du milieu et fin de saison, je pense, de belles bagarres. Donc, attendons, abonnez-vous à Canal+.
Voilà. Et alors, le passionné que vous êtes, est-ce qu'une voiture qui fait moins de bruit, c'est... dans les manations du sport automobile, parce qu'aujourd'hui, on veut que les voitures ne fassent plus de bruit. Et quand on discute avec des passionnés de sport auto, disant, là, c'est plus dans notre sport, nous, plus la voiture fait du bruit, plus c'est du sport automobile.
Ah ben, c'est, non, mais c'est vrai, c'est, le bruit, c'est important, l'odeur, c'est important, les bruits, les crissements de pneus autrefois, il y a plein de choses qui ont disparu, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Maintenant, il y a des normes, il faut aussi que le sport automobile soit un petit peu plus écolo, entre guillemets, il faut...
C'est tendance aujourd'hui.
Voilà, c'est dans l'air du temps, donc bon, ouais. Il faut aussi s'y faire un petit peu, il faut respecter aussi beaucoup plus de normes de sécurité. Moi, je me souviens, quand j'allais voir les rallyes il y a 20-25 ans, les spectateurs se mettaient n'importe où. Il y a eu des drames, il y a eu des accidents. Heureusement que maintenant, il y a des zones protégées. Alors, c'est peut-être un petit peu trop, c'est un peu, le bruit c'est pareil, c'est-à-dire qu'à vouloir trop réglementer, on va un petit peu trop loin. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. On pourrait quand même libérer un petit peu les décibels, ce serait pas mal.
Mm-hmm. Pierre, la Formule 1, vous prenez votre pied devant les Grands Prix qui sont maintenant sur Canal?
Oui, ben je suis quand même beaucoup. Oui, voilà. N'ayant pas Canal, c'est un peu plus compliqué.
Ça sert à tout. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas, pas abonné depuis à Canal depuis que Canal a la Formule 1. Ça veut dire quelque chose quand même.
Non. Puis pour vraiment les grands amateurs de voitures de course anciennes dont je fais partie, ouais. Ça nous parle quand même beaucoup moins. Bah malheureusement.
Oui, voilà. Voilà, nous sommes restés cette génération qu'on a vue des années 80. Les moteurs, les réglementations qui font peut-être des épreuves un tout petit peu moins spectaculaires pour le grand public.
Oui, moi je suis un petit peu resté pour la Formule 1 à l'époque, je dirais de la fin, bon du début des années 70, presque avant l'arrivée des ailerons. Mmh. Voilà, je trouve que ça a été quelque chose d'un peu différent après. Mais non, la Formule 1 actuelle ne me passionne pas trop.
Ouais. Cette année, on va reprendre les mêmes et puis on recommence pratiquement. Hamilton, Rosberg, ça va être eux qui vont se battre encore pour un nouveau titre.
Oui, c'est un peu ça, mais je pense que dans le passé, on a connu ces situations-là. Bon, avec Schumacher qui a été évoqué, beaucoup de grands pilotes arrivaient à dominer quand même la discipline. Mais je pense quand même les Formule 1 anciennes étaient, même des années 80, étaient beaucoup plus physiques que les voitures actuelles. Là, on est passé quand même un petit peu aux jeux vidéo, quoi.
Ouais, c'est voilà. C'est tout le monde dit. Bon, il y a moins d'accidents. Dieu merci, même si cette année, Jules Bianchi a succombé.
Bah, je pense que malheureusement, l'accident fait partie inhérente du sport automobile. Et on n'arrivera jamais à faire une course de Formule 1 sans qu'une fois, il y ait un problème. Les accidents sont devenus quand même vraiment très très rares maintenant. Mmh. Et c'est très bien. Hein. Mmh. Les circuits sont parfaitement protégés. Les zones de dégagement sont importantes. Et on ne peut que féliciter tous les gens qui travaillent à ça.
Allez, la pub et la musique.
Le restaurant Amaris à Rambouillet a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi midi et du lundi au jeudi soir pour vous proposer une nouvelle carte avec ses entrées et son buffet d'hors-d'œuvre à volonté, ses plats et un large choix de desserts chauds ou froids. Le restaurant Amaris, c'est une cuisine maison composée de produits frais. Découvrez également le menu Amaris à 25€ et le menu Express à 15,50€, servi uniquement le midi et hors jour férié. Alors, pour un repas professionnel ou un moment de convivialité, entre amis ou en famille, une seule adresse. Restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 34 rue de la Mairie, Orsemont.
International Auto, 284 RN10 à Coignères, achète comptant et immédiatement votre véhicule de moins de 10 ans avec ou sans contrôle technique. Intéressé pour vendre rapidement votre voiture? Une seule adresse. International Auto, 284 RN10 à Coignères. Téléphone 0607 65 34 40. 0607 65 34 40.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Voilà, alors Stéphane, vous voulez comme avoir une petite pensée pour Daniel et Léna d'abord.
Oui, bah en fait, on a été suivi pendant tout le rallye, bah d'abord par le forum de, de Rendez-vous de la Reine, et je pense que Pierre va nous donner l'adresse exacte.
Oui, alors.
Parce que moi, je sais
pas. L'adresse exacte, c'est alors lotus16.forumactif.org.
D'accord, ok. Donc vous y allez, comme ça, vous, tout, vous serez tous sur les rendez-vous de la Reine.
Voilà, hein. On peut simplement faire sur un moteur de recherche les rendez-vous de Rambouillet, c'est le forum, et puis voilà.
Donc en fait voilà, donc oui, sur ce forum là on était suivi presque en direct pendant le rallye, et c'était un engouement assez important, et on faisait vivre un petit peu le rallye à tous les membres de l'association, donc c'était un moment agréable, et puis on était un peu boosté parce qu'on voyait les réactions des uns et des autres. Ils étaient devant leurs écrans à voir les résultats, c'est donc le forum, ils ont vécu ça un peu en direct. Mais je suis aussi régulièrement sur un forum qui s'appelle le RAC, qui est dans le sud-est, et j'ai pas mal d'amis là-bas, et donc Daniel et Léna est sur aussi un membre du forum, et donc bah, je leur passe un petit bonjour, et même si on est dans le nord, on n'oublie pas le sud-est et cette belle région qui nous a permis de vivre un super rallye Monte Carlo.
Merci en tout cas Stéphane, merci Pierre, et puis on aura l'occasion Stéphane de se revoir, hein. On a plein de projets pour le sport automobile. Voilà, puis cette émission vous pourrez la réécouter dès cette semaine en podcast sur notre nouveau site internet. Voilà. Voilà, Géraldine, bonnes vacances, parce que nous, on continue à travailler, mais elle est pas en congé. Hein.
Oui, c'est ça, mais moi, je vais dans la voiture, là, tout à l'heure, là. Ouais. Je monte dans la voiture.
C'est très bien. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Merci de nous avoir été fidèles, et puis rendez-vous la semaine prochaine, Rambouillet Olympique. On parlera aussi du trail des villes royales, et on reviendra sur le semi de Bulleon. Bon dimanche à toutes et à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.